Jésus qui est devenu le pain de vie. Jean chapitre 6, versets 47 à 58. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Qin Shi Huang est devenu celui qui a échoué dans sa tentative de résoudre le problème de sa mort avec l'herbe de l'éternelle jeunesse. Qin Shi Huang, 259 à 210 avant Jésus-Christ, fut le premier empereur de l'histoire chinoise à unifier la vaste terre de Chine en une seule. Bien qu'il ait bâti un empire colossal à un jeune âge, ce qu'il craignait le plus dans sa vie était sa mort. Il a essayé par tous les moyens possibles de surmonter la mort, à laquelle aucune autorité humaine ni aucune puissance militaire ne pouvait échapper. Et la seule méthode qu'il trouva pour cela fut une herbe mystérieuse appelée Bulosho, l'herbe de l'éternelle jeunesse ou élixir d'immortalité. Il envoya ses sujets aux quatre coins du pays pour fouiller les montagnes et les mers, et dépêcha même des émissaires aux trois montagnes spirituelles dans la mer de l'Ouest, leur ordonnant d'obtenir le Bulosho de la terre légendaire où l'on disait que des êtres immortels demeuraient. Cependant, la réalité était différente du désir de l'empereur. Ses sujets ne purent trouver l'herbe de l'éternelle jeunesse, et certains trompèrent même l'empereur en présentant de fausses. Finalement, Qin Shi Huang crut les paroles des Fangxi, alchimistes, et prit du mercure ainsi que divers minéraux et substances médicinales, pensant qu'il s'agissait d'élixirs miraculeux pour l'immortalité. Mais ces substances toxiques ont plutôt nui à son corps et raccourci sa durée de vie. Selon les archives, il tomba malade lors d'une tournée impériale à travers le pays et mourut finalement en 210 avant Jésus-Christ à l'âge de 49 ans. Son obsession d'éviter la mort a fini par produire le résultat de raccourcir réellement sa vie. Même ceux qui possèdent la richesse et le pouvoir du monde n'ont pas pu résoudre le problème de leur propre mort. Lorsque nous examinons la vie de ceux qui possèdent la richesse et le pouvoir du monde en lien avec l'histoire de l'empereur Qin Shi Huang, la vérité que la Bible proclame devient encore plus claire. Premièrement, Qin Shi Huang, appelé le premier empereur de Chine, était une figure qui tenait entre ses mains l'autorité du monde et un vaste territoire. Cependant, malgré ses tentatives pour éviter la mort en cherchant l'herbe de l'éternelle jeunesse, il a finalement mis fin à sa vie prématurément. Peu importe la puissance de son armée et de son autorité, il ne pouvait arrêter la mort. De plus, Alexandre le Grand de Macédoine était un homme qui, à l'âge de seulement 20 ans, a conquis un grand empire sans précédent dans l'histoire occidentale. Il a établi un empire colossal s'étendant sur l'Asie et l'Europe, mais il est décédé de maladie au jeune âge de 33 ans. Selon la tradition, face à la mort, il a laissé un testament disant « Quand vous procéderez à mes funérailles, laissez mes mains être placées à l'extérieur du cercueil. Que les gens sachent que nous venons les mains vides et que nous partons les mains vides. » Cela a laissé une leçon profonde selon laquelle même si l'on gagne tout dans le monde, on doit finalement partir les mains vides. Le roi Salomon d'Israël était aussi une figure qui a joui de la sagesse et des richesses. L'argent et l'or étaient aussi communs que les pierres, et il a joui de la gloire du monde au maximum, pourtant il confesse ceci dans l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité », Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Il était celui qui, ayant expérimenté toutes les richesses et les plaisirs du monde, a réalisé qu'une vie sans Dieu n'est finalement que vanité. Même aujourd'hui, il y a des chaboles, des politiciens et des détenteurs du pouvoir mondial. Ils peuvent sembler faire bouger le monde avec leur argent et leur pouvoir, mais en fin de compte, face à la mort et à la maladie, ils ne sont tous que de faibles êtres humains. Ni les grandes fortunes ni la haute autorité ne peuvent arrêter la mort. En conclusion, cela nous fait savoir que la richesse et le pouvoir du monde peuvent briller un instant, mais ils ne peuvent résoudre le problème de la mort. Cependant, la Bible nous montre le chemin vers la vie éternelle. L'autorité et les richesses ne peuvent nous apporter la suppression du péché et la vie éternelle, mais la suppression du péché et la vie éternelle, qui sont données par la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en Jésus-Christ, sont éternelles. Peu importe la richesse ou la force d'une personne, elle ne peut finalement échapper à la mort et retournera à une poignée de poussière. C'est dire qu'il y avait de telles personnes même parmi les individus modernes qui ont vécu à une époque proche de la nôtre. C'est-à-dire que même parmi les figures de l'histoire moderne que nous connaissons bien aujourd'hui, il y a eu des cas de ceux qui possédaient la richesse et le pouvoir du monde mais qui n'ont finalement pas pu échapper à la mort. Premièrement, Steve Jobs, 1955 à 2011, le fondateur d'Apple, était un innovateur qui a changé la civilisation mondiale avec des produits comme l'iPhone et l'iPad. Il a joui d'une immense richesse et influence, mais a finalement succombé à un cancer du pancréas. Sa confession, très semblable à ses dernières paroles, que dans les derniers moments de la vie, la richesse et la renommée ne sont d'aucune utilité, est un excellent exemple montrant que la gloire du monde ne peut vaincre la mort. Aussi, Michael Jackson, 1958 à 2009, surnommé le roi de la pop, possédait une renommée mondiale et une richesse énorme, mais son moi intérieur était toujours dans un état d'anxiété et de vide. Sa vie, qui s'est terminée par une surdose de médicaments, montre que même si l'on possède toutes les richesses et tous les honneurs du monde, tout n'est que vanité si l'on ne peut obtenir la paix de l'esprit et la vie éternelle. La princesse Diana, 1961 à 1997, qui était comme un symbole de la famille royale britannique, a également reçu l'amour et l'attention des gens du monde entier, mais elle n'a pas pu jouir d'un vrai bonheur au milieu de son autorité et de sa popularité. Sa vie, qui s'est terminée dans un accident de voiture à Paris, prouve le fait que la renommée et le pouvoir du monde ne peuvent garantir la vie et la mort. Et même aujourd'hui, des milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos rêvent de la vie éternelle en se dirigeant vers l'espace ou par le biais de l'intelligence artificielle et de la technologie scientifique. Cependant, peu importe les avancées de la science par les humains, ils ne peuvent finalement pas résoudre le problème de la mort. Leurs tentatives ne sont pas différentes des errances de l'ancien empereur Qin Shi Huang à la recherche de l'herbe de l'éternelle jeunesse. Nous devons savoir que la vraie vie n'est pas donnée par la science ou l'argent, mais seulement par Dieu, et elle se réalise en le vénérant. À propos de ceux qui ont essayé de prolonger leur vie avec leur propre richesse et pouvoir. Pas simplement les gens qui jouissaient de la richesse et du pouvoir, mais les histoires de ceux qui ont utilisé ce pouvoir pour essayer de prolonger leur propre vie se sont répétées à travers l'histoire. Cependant, le résultat a toujours été le même. Premièrement, le premier empereur de Qin, afin d'éviter la mort, a fait chercher l'herbe de l'éternelle jeunesse, et il a pris d'innombrables fois le remède de la vie éternelle et de l'immortalité recommandé par les Fangxi, alchimistes taoïstes. Cependant, ce remède était un poison mélangé à du mercure, et à la fin, il a plutôt raccourci sa vie. Malgré la possession du pouvoir qui a unifié le monde et une richesse incommensurable, il n'a pas pu prolonger sa vie ne serait-ce que d'un seul jour. Les anciens empereurs romains étaient également les mêmes. Des empereurs comme Néron et Auguste ont rassemblé des médecins et des alchimistes et leur ont fait chercher le remède de l'immortalité. Cependant, leur pouvoir et leur richesse n'ont pas pu prolonger leur vie, et plutôt, ils ont trouvé la mort à cause de la débauche et de remèdes incorrects. À la fin, les traces de ceux qui ont lutté pour éviter la mort ne restent que comme des noms dans l'histoire. Même aujourd'hui, les chaboles et les milliardaires dotés de richesses et de pouvoir essaient de s'accrocher à la vie avec le pouvoir de la science. Calico, fondé par les fondateurs de Google, mène des recherches dans le but de conquérir le vieillissement, et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, investit dans Altos Labs pour tenter de prolonger la durée de vie humaine en rajeunissant les cellules. De plus, Elon Musk de Tesla rêve de connecter le cerveau humain aux machines par le biais de l'intelligence artificielle et de puces implantées dans le cerveau, Neuralink, pour maintenir la conscience éternellement. Cependant, toutes ces tentatives ne sont essentiellement pas différentes de l'époque où le premier empereur de Qin errait à la recherche de l'herbe de l'éternelle jeunesse. À la fin, cela nous enseigne que la mort ne peut être surmontée avec l'argent et la science. Même certains riches d'aujourd'hui sont obsédés par la longévité, recevant des soins médicaux de premier ordre, suivant des régimes alimentaires sains spéciaux, et dépensant même de l'argent pour la cryogénisation. C'est le rêve de faire congeler leur corps à des centaines de degrés sous zéro après la mort, pour être réanimé dans le futur. Mais ce n'est que le désir futile des humains qui ne peuvent accepter la mort, et la vie ne peut être retenue à nouveau. Que ce soit le premier empereur de Qin, les empereurs romains ou les milliardaires d'aujourd'hui, ils ne peuvent jamais éviter la mort par leur propre pouvoir. Cependant, Jésus-Christ a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié sur la croix, et a versé son sang pour éliminer les péchés des pécheurs, accordant ainsi la purification éternelle du péché et la vie éternelle à ceux qui croient. Le pouvoir et la richesse du monde ne peuvent empêcher la mort, mais celui qui croit en la justice du Christ reçoit la purification éternelle du péché, ressuscite d'entre les morts, et vivra éternellement dans le royaume de Dieu. C'est le véritable espoir et la vérité à laquelle nous devons nous accrocher. Quelle est la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a eu les péchés du monde transférés sur lui, a été crucifié sur la croix, et a versé son précieux sang? La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre était de laver les péchés du monde en étant baptisé par Jean. En tant que le vrai Sauveur venu parmi l'humanité, Jésus-Christ est venu dans le corps d'un homme pour donner sa propre chair et son propre sang. Par conséquent, en recevant le baptême de Jean, Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en une seule fois, et après avoir résolu ce péché sur la croix en versant son précieux sang, il est ressuscité des morts. Par cela, Jésus est devenu le Sauveur de l'humanité, et ceux qui mangent sa chair et boivent son sang par la foi ont obtenu le salut par cette foi. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean avait pour but que les péchés du monde lui soient transférés pour les laver, et sa réception du jugement sur la croix à notre place était l'œuvre complète pour accomplir le salut des pécheurs. Les paroles du Seigneur, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage », Jean chapitre 6, verset 55, désigne le ministère de Jésus qui a lavé nos péchés par le baptême et a porté le jugement de ce péché avec le sang de la croix. Le pain du monde ne donne la vie qu'à la chair, mais le baptême que Jésus a reçu et le sang qu'il a versé sont la vraie nourriture pour laver nos péchés et donner la vie éternelle. Ce baptême n'était pas un simple rituel mais un événement décisif dans le plan de Dieu pour accomplir le salut. En étant baptisé par Jean et en lavant les péchés du monde, Jésus nous a donné la vraie paix et la purification du péché, et sur la croix, il a reçu le jugement du péché à notre place et a accompli le salut. Pour cette raison, lorsqu'il a rompu le pain lors de la scène et a dit « Ceci est mon corps donné pour vous », c'était parce qu'il avait déjà pris les péchés du monde sur son corps par le baptême. Cependant, beaucoup de gens jusqu'à présent n'ont cru qu'en Jésus qui a versé son sang sur la croix comme leur sauveur. Si le salut était accompli par la croix seule, leurs péchés auraient dû disparaître de leur cœur, mais en réalité, ils ont vécu comme des pécheurs avec le péché toujours présent. La raison en est qu'ils ne connaissaient pas l'événement du baptême de Jésus par Jean et sa signification. Mais si nous savons et croyons pourquoi le baptême de Jésus était nécessaire, nous en venons à réaliser le fait que nos péchés ont déjà été lavés en une seule fois lors de l'événement du baptême. Par conséquent, la foi qui connaît le ministère de Jésus, qui a été baptisé par Jean et a eu les péchés du monde transférés sur lui, est très importante. C'est précisément la raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, « Vous devez naître de nouveau d'eau et d'esprit. » Jésus, en lavant les péchés par le baptême et en versant son sang, en mourant sur la croix et en ressuscitant, avait l'intention de donner aux croyants la suppression des péchés et une vie nouvelle. La Bible dit, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Hébreux chapitre 10, verset 10. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean, ait eu les péchés du monde transférés sur lui et les ait lavés, et ait reçu le jugement pour ses péchés sur la croix à notre place, était le plan de salut de Dieu pour nous donner à tous la suppression des péchés et une vie nouvelle. Par conséquent, ce qui est vraiment nécessaire pendant que nous vivons est l'acte de croire en ce ministère du salut. Cette parole de vérité que Jésus a été baptisé par Jean, a lavé les péchés du monde en une seule fois, et nous a sauvés en versant son sang sur la croix et l'évangile de vie qui nous est absolument nécessaire. Je suis le pain de vie. Au début, Jésus a nourri de pain les gens qui avaient physiquement faim. Cependant, aux gens qui ont suivi Jésus après avoir mangé ce pain, Jésus a dit « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle », et leur a enseigné quelle nourriture ils devaient véritablement rechercher. Quand les gens ont demandé, ils lui dirent « Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé », Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jésus est devenu le Sauveur qui a pris sur lui et a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et en croyant en ce Seigneur, nous sommes devenus capables de manger la nourriture spirituelle dans nos cœurs. Les Juifs demandèrent de nouveau à Jésus, « Quel signe ferez-vous donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en vous ? Quelle œuvre ferez-vous ? » À cela, Jésus dit, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jean chapitre 6, verset 57. Cependant, les gens n'ont pas compris cette parole, « Ainsi celui qui me mange vivra par moi », et les Juifs étaient très perplexes. Ils pensaient, « Jésus, comment pouvons-nous manger ta chair et boire ton sang ?» essayant de comprendre ces paroles uniquement dans une dimension physique. Bien que manger du pain physique soit une façon de manger, accepter avec un cœur de foi le fait que Jésus a été baptisé par Jean et a transféré les péchés du monde est aussi quelque chose que l'on peut appeler manger le pain par la foi. Cependant, les gens ne comprenaient pas bien ce que signifie manger dans leur cœur cette parole de vérité de l'Évangile que Jésus, en étant baptisé par Jean, a lavé les péchés du monde. De cette manière, ils ne connaissaient pas le secret de prendre comme nourriture par la foi la véritable nourriture de vie dont Jésus parlait, à savoir, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons, par la foi, faire de cela la nourriture pour nos cœurs, que Jésus a été baptisé par Jean et a pris sur lui les péchés du monde. Accepter par la foi le fait que Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, a pris sur lui et a lavé d'un seul coup les péchés dans nos cœurs, c'est comme une personne qui mange de la nourriture dans son cœur. Nous sommes des êtres qui peuvent manger non seulement la nourriture visible pour la chair, qui est le pain, mais aussi la nourriture de la foi avec nos cœurs. Par conséquent, un entraînement est nécessaire pour manger dans nos cœurs la nourriture de vie, qui est l'enlèvement des péchés. Dans Hébreux, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux chapitre 11, verset 1. Ce verset dit que nous pouvons obtenir le salut par la foi qui croit au fait que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Ce genre de foi est la foi qui mange la nourriture de vie. La foi qui croit au fait que Jésus a été baptisé par Jean pour prendre sur lui les péchés du monde, a été crucifié sur la croix, et a reçu le jugement pour nos péchés à notre place pour nous sauver, est précisément la foi qui mange la nourriture de vie. En croyant dans nos cœurs tout ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons recevoir à la fois la purification des péchés et le salut du jugement du péché. Le cœur qui croit aux paroles que Jésus a prononcées est, sur un plan spirituel, comme manger. C'est pourquoi Jésus a aussi dit, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jean chapitre 6, verset 58, « Je suis le pain de vie. » Jean chapitre 6, verset 48, « Et il est le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean chapitre 6, verset 51. À l'ère du Nouveau Testament, parce que Jésus a été baptisé par Jean, a fait transférer sur lui le péché du monde et l'a lavé, quiconque peut recevoir la purification de son propre péché en croyant à cette parole de vérité de l'Évangile. Parce que Jésus a porté nos péchés, il est allé à la croix, a été crucifié, a versé son sang, et est ressuscité des morts, et en croyant ce fait, nous recevons la bénédiction de devenir enfants de Dieu. Par la foi qui croit en la parole de Dieu, nous pouvons manger cette parole comme la nourriture de vie pour nos âmes. Le fait que Dieu, dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, faisait en sorte que le péché du pécheur soit transféré au sacrifice par l'imposition des mains, et le fait que Jésus, à l'ère du Nouveau Testament, a pris sur son propre corps le péché du monde en étant baptisé par Jean, sont la même parole. Par conséquent, en connaissant et en croyant le fait que Jésus a fait transférer sur lui le péché du monde en étant baptisé par Jean, a été crucifié et a versé son sang, et ressuscité des morts, et donne maintenant une nouvelle vie à ceux qui croient, nous recevons le salut éternel. L'évangile du salut auquel l'Ancien et le Nouveau Testament témoignent, c'est-à-dire, la parole de vérité de l'évangile, pointe finalement vers la vérité que Jésus a lavé le péché du monde en le faisant transférer sur lui par son baptême par Jean. En croyant cette parole, nous recevons la purification du péché dans nos cœurs. Par la foi qui croit ensemble en la parole du baptême de Jésus par Jean et en la parole du sang de la croix, nous pouvons être sauvés de tous les péchés du monde. Le fondement du salut que nous avons reçu réside dans le fait que Jésus a lavé le péché du monde en le faisant transférer sur lui par son baptême par Jean, et qu'il a payé le prix du péché en recevant la pénalité pour nos péchés à notre place avec le sang de la croix pour nous donner une nouvelle vie. Nous recevons le salut dans nos cœurs en croyant la parole de vérité que Jésus a lavé le péché du monde en étant baptisé par Jean et a versé son sang pour nous. Si nous ne croyons pas que Jésus a pris sur lui nos péchés en étant baptisé par Jean, et qu'au lieu de cela nous croyons séparément seulement au fait qu'il a payé le prix de nos péchés en versant son sang sur la croix, nous ne pouvons pas recevoir l'enlèvement complet du péché. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde était de sauver tous les pécheurs du péché du monde, c'est-à-dire, de résoudre complètement notre problème de péché pour nous. Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain et a fait transférer sur lui le péché du monde, et par là, il a lavé nos péchés d'un seul coup. Parce que Jésus a lavé le péché du monde en le faisant transférer sur lui par son baptême par Jean, et est allé à la croix et a versé son sang pour accomplir l'œuvre d'élimination de nos péchés, il a accompli toute la justice de Dieu selon la parole. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus-Christ est devenu celui qui a payé le prix de nos péchés d'un seul coup en portant le péché du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et en étant crucifié et en versant son sang. Le prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, a prophétisé, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités », Ésaïe chapitre 53, verset 5. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean était de devenir notre Sauveur en faisant transférer sur lui le péché du monde et en le lavant, et il a été crucifié sur la croix, recevant à notre place la pénalité pour les péchés de son peuple. Cependant, Jésus ne s'est pas arrêté à la mort, mais en tant que Sauveur ressuscité des morts, il est devenu celui qui donne le salut éternel à ceux qui croient. Pour ceux qui sont assurés du salut par la foi dans le ministère du baptême de Jésus par Jean et de son effusion de sang sur la croix, des fruits clairs sont portés. Premièrement, ils reçoivent la bénédiction de devenir des sauvés, ayant reçu la purification de tous les péchés du monde d'un seul coup. Ceci parce que, par le fait que Jésus a fait transférer sur lui le péché du monde par son baptême par Jean, même les péchés du passé, du présent et du futur ont déjà tous été lavés. Maintenant, ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang de la croix comme la vérité de leur salut sont ceux qui ont reçu le vrai don du salut, et parce que Jésus-Christ a fait transférer sur lui le péché du monde et l'a lavé en étant baptisé par Jean. En tant que ceux qui ont reçu l'enlèvement du péché par la foi, ils sont devenus éternellement purs, Hébreux chapitre 10, verset 10. Deuxièmement, ceux qui ont cette foi deviennent des enfants de Dieu qui sont sans péché. La relation avec Dieu, qui était bloqué par le péché, est restauré, et ils deviennent réconciliés avec Dieu, Jean chapitre 1, verset 12. Troisièmement, le Saint-Esprit vient demeurer dans leur cœur. Dans les cœurs de ceux qui ont reçu l'enlèvement du péché en croyant en l'évangile du salut, c'est-à-dire, la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit vient comme un don et demeure avec eux, Actes chapitre 2, verset 38. Quatrièmement, ils obtiennent une nouvelle vie éternelle. Ceux qui ont reçu l'enlèvement du péché en croyant au baptême et au sang de Jésus ne sont plus esclaves du péché, mais deviennent des justes sauvés de tout péché, qui sont capables de vivre comme tels, Jean chapitre 3, verset 16. En conclusion, parce que Jésus a fait transférer sur lui le péché du monde et l'a lavé en étant baptisé par Jean, ceux qui croient ce fait peuvent devenir des enfants éternels de Dieu. En vérité, le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean, avec le sang de la croix, est le ministère complet du salut de Dieu qui nous sauve du péché. Cette grâce du salut est le vrai salut qui n'est reçu que par la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Concernant le symbole de Nicée qui existe sur cette terre aujourd'hui, l'Église catholique a établi le fondement d'une religion syncrétique en promulguant le symbole de Nicée en 325 après Jésus-Christ. La raison principale pour laquelle ils ont créé le symbole de Nicée était, premièrement, dans le but d'unifier les peuples à travers l'Empire romain. Ils ont cherché à utiliser le dispositif religieux du symbole de Nicée pour lier les païens qui venaient de diverses régions et cultures et servaient différents dieux sous un système unique. Et à travers ce credo, ils ont créé une nouvelle religion syncrétique dans ce monde et, à travers cette religion, ont établi un fondement sur lequel ils pouvaient jouir de leur propre pouvoir, richesse et gloire. Cependant, le système de foi qu'ils ont créé n'était pas une doctrine basée sur le système sacrificiel que Dieu avait établi dans l'Ancien Testament. De plus, ce n'était pas un credo qui témoignait de la vérité du salut, à savoir que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a eu le péché du monde transféré sur lui et l'a lavé lorsqu'il a été baptisé par Jean. Au contraire, ils ont changé le système sacrificiel de Dieu pour créer une seule religion syncrétique dans le monde, et ce faisant, ils ont servi à obscurcir le système sacrificiel de l'Ancien Testament que Dieu avait institué pour l'enlèvement du péché de l'homme. Néanmoins, ils ont présenté le symbole de Nicée comme la foi orthodoxe, ont agi comme s'ils étaient ceux qui avaient hérité de la vraie foi, et ont cherché à régner sur de nombreuses personnes. Le symbole de Nicée et les sept sacrements créés par les catholiques n'avaient aucun lien que ce soit avec la vérité attestée par la Bible, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, dans lequel Jésus a pris sur lui et a lavé le péché du monde en étant baptisé par Jean. Par conséquent, la foi qui croit au credo qu'ils ont fait devient une foi sans rapport avec la vérité biblique, et en conséquence, ceux qui croient en ce credo ne pouvaient que rester dans une vie religieuse où ils ne pouvaient pas recevoir le lavement du péché de la part de Dieu. En apparence, le symbole de Nicée semblait défendre la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, si l'on examine réellement le symbole de Nicée et les sept sacrements qu'ils ont créés, la plupart du contenu sert à renforcer un système religieux syncrétique qui n'a aucune relation avec le Dieu trinitaire. Cela signifie qu'ils sont devenus ceux qui ont supprimé ou réduit au silence le ministère de la vérité dans lequel Jésus-Christ a eu le péché du monde transféré sur lui et l'a lavé lorsqu'il a été baptisé par Jean et à sa place. Ont établi des doctrines religieuses syncrétiques pour prendre le contrôle des âmes des gens. Ils ont essayé de se faire passer pour des croyants en Jésus en ne soulignant que sa croix, mais si l'on regarde la doctrine des sept sacrements qu'ils ont créés plus tard, on peut voir que, comme les pharisiens, avaient l'intention de contrôler religieusement les croyants en se plaçant dans la position de juge. Ils ne croyaient pas à la vérité selon laquelle Jésus a eu le péché du monde transféré sur lui et l'a lavé en étant baptisé par Jean, et ils ont créé un système de foi qui élevait la parole du pape au-dessus de la Bible. Un excellent exemple qui le montre est l'infaillibilité papale. En affirmant que la parole du pape a la même autorité que les paroles de la Bible, ils ont révélé qu'ils ne sont pas eux-mêmes des croyants en la Bible. Cependant, Dieu a accordé le salut à ceux qui croient en la vérité qu'il a lavé le péché du monde par le baptême reçu de Jean, et en la parole de l'effusion de sang sur la croix. Même maintenant, Dieu suscite, aux quatre coins du monde, ceux qui sont sauvés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En contraste avec cela, le symbole de Nicée et les sept sacrements créés par les catholiques ont servi à obscurcir la vérité selon laquelle Jésus a lavé le péché du monde en étant baptisé par Jean, et ils sont devenus un objet clair de colère devant Dieu. En fin de compte, leur création d'une nouvelle religion n'avait pas pour but de prêcher l'Évangile de la vérité, mais n'était rien de plus qu'un moyen de satisfaire leurs propres désirs charnels et leur propre autorité. On peut dire que la théologie catholique et la théologie des réformateurs sont les mêmes dans leur partie centrale majeure. Le mouvement de la réforme qui a eu lieu au XVe et XVIe siècle n'était qu'une tentative de corriger les erreurs de l'Église catholique, et non un mouvement visant à réformer fondamentalement les doctrines théologiques ou les systèmes catholiques qu'ils avaient déjà établis. Par conséquent, le fossé entre la foi crue par les catholiques aujourd'hui et les doctrines suivies par les protestants se réduit progressivement, pour finalement tendre vers le partage d'un système similaire. Par exemple, les croyants protestants acceptent et croient également telles quelles les doctrines correspondant au sacrement du baptême et au sacrement de pénitence. Ils croient que s'ils croient en Jésus, le péché originel est purifié, et ils pensent que les péchés commis par la suite reçoivent la purification par des prières de repentance. De plus, le catholicisme et le protestantisme ont tous deux solidifié des systèmes de sorte que l'on ne peut devenir membre du clergé que par le biais de leur propre dénomination et système de séminaire. Le catholicisme a créé un système de sept sacrements, rendant impossible de recevoir l'ordination sacerdotale sans une formation théologique. Et le protestantisme a également créé une structure où la qualification pour diriger la congrégation n'est donnée qu'après avoir formé une dénomination par le biais d'un séminaire et reçu l'ordination pastorale. Dans la doctrine catholique du sacrement de pénitence, un système est établi où le péché originel reçoit la purification par le sacrement du baptême, et tous les péchés actuels subséquents doivent recevoir la purification par le sacrement de pénitence. De même, le protestantisme a enseigné que le péché originel est résolu en croyant en Jésus et en recevant le baptême, et que les péchés actuels sont résolus par des prières de repentance. Finalement, les dénominations catholiques et chrétiennes ont affirmé que le véritable enlèvement du péché n'est réalisé qu'au sein des doctrines et systèmes religieux qu'elles ont créés. Cependant, Jésus a dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Jean chapitre 6, versets 47 à 48. Il a aussi dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jean chapitre 6, verset 53, et a clairement révélé que le salut de l'humanité réside dans la foi en ses deux œuvres, Jésus étant baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui les péchés du monde et les purifiant, et payant le prix du péché à leur place en versant son sang sur la croix. Jésus n'a pas dit ces paroles une seule fois. Pourquoi les aurait-il soulignées si souvent? C'est parce que ces paroles sont la vérité la plus importante qui donne la vie à l'humanité. Les paroles de Jésus, « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle », signifient que le vrai salut n'est atteint qu'en croyant au fait que Jésus a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui les péchés du monde et les purifiant, et qu'il a même porté le jugement du péché à notre place avec le sang qu'il a versé sur la croix. Par conséquent, pour que nous soyons sauvés de tous les péchés, nous devons recevoir la purification des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire, le baptême et l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, par lesquels il a pris sur lui les péchés du monde lorsqu'il a été baptisé par Jean et a versé son sang sur la croix. C'est le vrai chemin du salut dont Jésus a parlé à l'humanité. Alors, que signifie manger la chair de Jésus par la foi? La signification des paroles de Jésus, « Vous devez manger ma chair », en d'autres termes, est que l'on ne peut recevoir le lavement des péchés qu'en croyant en la parole de l'évangile de la vérité, à savoir que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, prenant ainsi sur lui les péchés du monde et les lavant d'un seul coup. Jésus dit qu'il a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui les péchés du monde et les lavant d'un seul coup. Cependant, de nombreux chrétiens aujourd'hui essaient de laver leurs propres péchés par des méthodes telles que les doctrines de la repentance dont on parle en théologie et la confession, et pour cette raison, ils demeurent finalement dans une foi qui ne croit pas pleinement en l'œuvre de Jésus. Qu'ils soient catholiques ou protestants, tous doivent recevoir le lavement des péchés par la foi en cette œuvre juste par laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a lavé les péchés du monde, et a versé son sang sur la croix. Pour comprendre correctement ces paroles, il faut d'abord connaître le système sacrificiel de l'époque de l'Ancien Testament. Un pécheur transférait ses péchés à l'offrande sacrificielle en imposant ses mains sur la tête du sacrifice, et ce n'est que lorsque cette offrande versait son sang et mourait que les péchés du pécheur étaient enlevés. Lorsque nous connaissons ce modèle du système sacrificiel de l'Ancien Testament, nous pouvons clairement réaliser la raison pour laquelle Jésus-Christ, à l'époque du Nouveau Testament, a été baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans et a pris sur lui les péchés du monde pour sauver l'humanité. De plus, nous pouvons aussi comprendre correctement pourquoi il a dû payer le prix du sacrifice en versant son sang sur la croix. Par conséquent, nous devons croire en la méthode de salut que Jésus a accomplie exactement selon le système sacrificiel consigné dans l'Ancien Testament. La manière dont Dieu sauve les gens du péché a été accomplie selon le système sacrificiel qu'il avait déjà établi dans l'Ancien Testament. À l'époque du Nouveau Testament également, Jésus a pris sur lui les péchés du monde d'un seul coup et les a lavés en étant baptisé par Jean, et par la suite, en étant cloué sur la croix et en versant son sang, il a payé le prix du jugement du péché d'un seul coup. Par conséquent, nous devons recevoir le lavement des péchés par la foi en cet évangile, c'est-à-dire le baptême et l'œuvre de la croix de Jésus. Nous devons également participer à la cérémonie de la Sainte Cène, en nous souvenant de cette vérité. Lorsque nous rompons le pain, nous devons croire à la vérité que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, a eu les péchés du monde transférés sur lui, et les a lavés. De même, lorsque nous buvons le vin, nous devons nous unir par la foi au fait que le sang que Jésus a versé sur la croix nous a sauvés du jugement du péché. La Sainte Cène n'est pas simplement une cérémonie formelle, mais une confession de foi qui croit en la vérité que Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui le péché, et a payé le prix du péché en versant son sang sur la croix. Par conséquent, le lavement des péchés n'est pas accompli par des cérémonies ou des formes religieuses faites par l'homme. Selon le système sacrificiel établi dans l'Ancien Testament, nous devons recevoir le lavement des péchés par la foi en l'œuvre du baptême et de la croix de Jésus. C'est la voie de salut de Dieu pour les pécheurs, et c'est le seul moyen d'être libéré de tous les péchés et du jugement du péché. C'est précisément ce que Jésus voulait dire par ses paroles dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Notre Seigneur a non seulement lavé nos péchés par son baptême, mais il est aussi devenu le Sauveur qui a même reçu le jugement du péché en versant son sang sur la croix. Par conséquent, nous devons croire au baptême que Jésus a reçu de Jean et au sang qu'il a versé sur la croix comme étant l'œuvre de vérité de Dieu pour notre salut, et dans cette foi, nous devons être ceux qui ont été sauvés. Maintenant, nous devons devenir ceux qui ont reçu la purification des péchés dans nos cœurs. Le mot « réforme » signifie corriger ce qui est faux et le redresser, et dans le domaine de la foi, il signifie revenir à la vraie foi qui consiste à croire en l'évangile du salut donné par Jésus, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Auparavant, nous croyions en un évangile centré uniquement sur la croix au sein des doctrines chrétiennes créées par les théologiens, et nous pensions que nous recevions la purification des péchés par des prières de repentance. Cependant, nous avons maintenant réalisé la vérité que nous pouvons obtenir la purification de tous nos péchés en une seule fois et être sauvés en croyant la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit consignée dans la Bible. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 dans le Nouveau Testament témoigne clairement de l'événement où Jésus a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde être transférés sur lui, et les a purifiés. Par conséquent, nous devons recevoir la purification des péchés par la foi en l'œuvre de son salut que Jésus a reçu tous les péchés en étant baptisé par Jean, est mort en versant son sang sur la croix, et est ressuscité. Cette foi est le seul moyen d'être sauvé de tous les péchés. Par conséquent, nous qui vivons à l'ère du Nouveau Testament devons demeurer dans la foi qui croit en la vérité de l'eau et de l'esprit consignée dans la parole de Dieu, et non dans les traditions humaines ou les systèmes religieux. Ce n'est que lorsque nous croyons cet évangile que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a été crucifié et est mort, puis est ressuscité que nous pouvons vraiment devenir ceux qui sont nés de nouveau. Cette foi doit être une foi qui accepte pleinement l'œuvre de salut que Jésus a accomplie par son baptême reçu de Jean et sur la croix. Nous, qui sommes actuellement dans cette foi, avons pour mission de proclamer au peuple de ce monde l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la vérité que Jésus est devenu le Sauveur qui a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde être transférés sur lui et les a purifiés, et a même reçu le jugement du péché en versant son sang sur la croix. C'est l'essence de l'évangélisation confiée au sein de l'ère du Nouveau Testament, et c'est le vrai message de salut que nous devons prêcher. Quand Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour », Jean chapitre 6, verset 54, il indiquait aussi la vérité de cet évangile. Jésus a fait la promesse à ceux qui ont été sauvés du péché qu'il les ressusciterait au dernier jour. Pour celui qui a reçu la purification des péchés en croyant en la justice du Seigneur, la mort n'est pas la fin mais le début d'une nouvelle vie. Nous sommes devenus ceux qui ont retrouvé la vie que nous avions perdue par la foi en la justice du Seigneur, qui a pris sur lui nos péchés par son baptême. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a vu les péchés du monde être transférés sur lui en une seule fois, et il est celui qui a purifié tous ses péchés complètement en une seule fois. Jésus ne nous a pas sauvés d'une manière qui purifie nos péchés petit à petit chaque jour, il est plutôt devenu le Sauveur qui a pris sur lui et purifié tous les péchés en une seule fois lorsqu'il a été baptisé par Jean. Ceux qui croient ce fait sont ceux qui ont déjà reçu la purification éternelle des péchés. Jésus, en recevant le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde par imputation, et il nous a sauvés en étant crucifiés et en versant son sang. C'est pourquoi, nous sommes devenus des gens sauvés par la foi au Seigneur qui a ôté tous nos péchés. Notre salut ne vient pas de nos œuvres ou de nos efforts, mais, c'est une grâce que nous recevons par la foi en l'Évangile du salut, qui proclame que Jésus a purifié les péchés du monde en recevant le baptême de Jean. C'est cette foi qui est le véritable Évangile dont témoigne le Nouveau Testament, et la vérité du salut à laquelle nous devons nous attacher. Jésus a été baptisé par Jean et sur la croix a dit « Tout est accompli ». Jésus a personnellement enseigné quelle nourriture l'humanité doit manger pour obtenir la vraie vie, en disant « Ma chair est une vraie nourriture ». Le moyen de résoudre en une seule fois tous les péchés que nous commettons en vivant sur cette terre est de croire en l'Évangile de la vérité, qui est que Jésus a reçu le baptême de Jean, a ainsi vu les péchés du monde être transférés sur lui, et les a lavés. Lorsque nous avons cette foi, nous obtenons l'assurance du lavement des péchés, et en croyant en Jésus qui a pris sur lui le jugement du péché sur la croix, nous parvenons à avoir l'assurance du salut dans nos cœurs. Ce qui est important devant Dieu, c'est la foi qui croit aux paroles consignées dans la Bible, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons connaître le fait que les doctrines théologiques ou les traditions chrétiennes qui proviennent des pensées des hommes ne lavent pas les péchés et ne donnent pas l'assurance du salut. Le salut ne vient pas de la logique des théologiens, mais de la croyance en la parole exactement telle que Dieu l'a consignée dans la Bible, que Jésus a reçu le baptême de Jean, a lavé les péchés du monde en une seule fois, et a reçu le jugement sur la croix pour nous. Par conséquent, plutôt que les doctrines théologiques, nous devons nous attacher à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont témoigne la Bible, c'est-à-dire le ministère du baptême de Jésus et de la croix. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'Évangile de la suppression des péchés dont témoignent l'Ancien et le Nouveau Testament dans leur intégralité, et c'est la seule vérité qui nous donne l'assurance du salut. Cependant, les doctrines existantes du catholicisme et du christianisme sont différentes de cela. Les doctrines créées par les théologiens sont construites sur la base de pensées humaines, et ces doctrines ne reflètent pas la vérité du système sacrificiel de l'Ancien Testament ou du baptême et de la croix du Nouveau Testament tels qu'ils sont. Par exemple, la Bible témoigne que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris sur lui en une seule fois les péchés du monde. Cependant, la doctrine chrétienne enseigne que le péché originel est remis lorsque l'on croit en Jésus, et que les péchés commis par la suite ne sont lavés qu'en offrant quotidiennement des prières de repentance. Le catholicisme dit que les péchés ne sont absous qu'en faisant une confession devant un prêtre. Cela ne correspond pas du tout aux paroles de la Bible. La Bible rapporte que Jésus a pris sur lui les péchés du monde par son baptême et les a lavés. Cependant, les doctrines théologiques et les traditions dénominationnelles ont remplacé cette vérité par des prières de repentance ou la confession. Si tel est le cas, quel chemin devons-nous choisir? Croirons-nous en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont témoigne la Bible et recevrons-nous le lavement des péchés, ou nous attacherons-nous aux doctrines faites par les hommes? Le fait important est que, devant Dieu, les doctrines des hommes ne sont pas reconnues. Nous devons seulement croire la parole telle que témoignée par la Bible dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que Jésus a été baptisé par Jean, a lavé les péchés du monde, a payé le prix du péché en une seule fois sur la croix, et a dit « Tout est accompli ». Cette foi seule est la foi qui donne la confirmation du salut. La doctrine des sept sacrements, établie par le catholicisme en 325 après Jésus-Christ, enseignait le salut en insistant uniquement sur la croix. Cependant, la Bible témoigne ensemble du ministère de Jésus voyant les péchés du monde être transférés sur lui et les lavant par son baptême par Jean, et du ministère de recevoir le jugement du péché en notre nom sur la croix. C'est la base du salut complet dont parle la Bible. On ne peut être sauvé du péché par des prières de repentance ou la confession. On ne peut être sauvé en croyant aux doctrines théologiques. L'élimination des péchés n'est donnée que dans la foi qui croit en l'Évangile de vérité que Jésus a été baptisé par Jean et a lavé en une seule fois les péchés du monde. Les doctrines chrétiennes de la repentance ou la confession catholique peuvent apporter un réconfort temporaire au cœur d'une personne, mais elles ne peuvent pas réellement résoudre le péché. Par conséquent, nous ne devons plus nous fier aux traditions et aux doctrines des hommes. Ceux qui ont créé les doctrines théologiques les ont établies pour leur propre renommée et leur propre statut. Ces doctrines n'ont pas réussi à libérer les gens du péché et, au contraire, ont poussé de nombreuses personnes à s'écarter des paroles originales de la Bible. En conséquence, beaucoup se sont éloignés de l'évangile de Jésus lavant les péchés du monde en étant baptisés par Jean, et en sont venus à errer dans les doctrines des hommes. Cependant, Jésus est venu dans le monde, a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde, nous sauvant ainsi en une seule fois. Il est le Sauveur qui a été crucifié, a versé son sang pour payer le prix du péché, et est ressuscité. Par conséquent, nous ne devons pas suivre les doctrines des hommes, mais croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, dont Jésus lui-même a parlé. Les chefs religieux du monde enseignent « Repentez-vous, confessez-vous, accumulez des vertus ». Cependant, par ces méthodes, personne n'a jamais été libéré du péché. C'est parce qu'il s'agit simplement d'une religion humaine et qu'elle ne donne pas le vrai salut. Inversement, Jésus, en tant que Dieu créateur et notre vrai Sauveur, a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et nous a également sauvés du jugement du péché par le sang de la croix. Si vous réfléchissez à ce que vous avez gagné en vous efforçant d'obtenir le salut selon les doctrines des hommes jusqu'à présent, la réponse est claire. C'est que vous n'avez rien gagné. Par conséquent, nous devons maintenant nous détourner des doctrines des hommes et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit dont témoigne la Bible. Jésus-Christ a vu les péchés du monde être transférés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste et les a lavés, il a été crucifié, a versé son sang, et est devenu en une seule fois le sauveur de ceux qui croient. Il dit, « J'ai lavé tous vos péchés en une seule fois en étant baptisé par Jean. Et j'ai payé le prix de vos péchés en une seule fois avec le sang de la croix, je suis ressuscité, et je suis devenu votre sauveur éternel. Maintenant, vous devez croire au baptême que j'ai reçu et au sang de la croix, et devenir une personne qui a été sauvée de tout péché. Nous devons devenir ceux qui croient sincèrement et sont reconnaissants pour cette parole. C'est le chemin du salut dont témoigne la Bible, et l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous devons nous attacher. Mon sang est vraiment une boisson. Tout comme boire une boisson fraîche en été étanche notre soif, nos cœurs trouvent aussi du rafraîchissement lorsque nous connaissons et croyons le fait que Jésus a été baptisé par Jean, a vu les péchés du monde être transférés sur lui en une seule fois et les a lavés, et le fait qu'il a été jugé sur la croix à notre place. Au moment où nos cœurs, qui étaient assoiffés et anxieux à cause de notre problème de péché, réalisent cette vérité, ils en viennent à jouir d'une paix semblable à de l'eau vive. Le Seigneur a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et en versant son sang sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Jésus-Christ a lavé nos péchés en une seule fois par son baptême, et en prenant complètement sur lui le prix de tout péché sur la croix, il est devenu le sauveur pour ceux qui croient. Par conséquent, nous ne devons plus penser que nous sommes sauvés en lavant les péchés un par un par des prières de repentance ou la confession. Jésus, en étant baptisé par Jean, a pris sur son propre corps les péchés du monde et a payé le prix de nos péchés en une seule fois avec le sang qu'il a versé sur la croix. Jésus est le vrai Sauveur qui nous a sauvés même du jugement de notre péché. Le Seigneur nous a donné la foi pour croire en la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons rendre grâce au Seigneur qui nous a permis d'accepter cette vérité et rendre gloire à Dieu. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la puissance de Dieu qui purifie nos péchés, et c'est le pain de vie dont nous vivons sur cette terre. Aussi, Dieu a établi des serviteurs qui prêchent cet Évangile et nous fournit la parole de vérité. En entendant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il délivre, nous sommes sauvés du péché et pouvons vivre en gardant notre foi. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit auquel il croit et qu'il prêche est la vérité suffisante pour éliminer nos péchés, et c'est la parole de salut que Dieu lui-même a donnée. Jésus a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois en étant baptisé par Jean, est mort en versant son sang sur la croix, est ressuscité, et est maintenant devenu le Sauveur éternel de ceux qui croient. Par conséquent, nous devons entendre et croire cet évangile de vérité, et nous devons recevoir le lavement du péché en croyant au ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean. Aussi, nous devons devenir ceux qui ont été délivrés du jugement du péché en croyant au fait qu'il a versé son sang sur la croix. Maintenant, comment sont vos cœurs? En tant que personne qui a reçu la purification du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, jouissez-vous du rafraîchissement comme si vous aviez bu de l'eau vive? Avez-vous obtenu la paix dans votre cœur par la foi qui croit que Jésus est devenu notre Sauveur? Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, Il a vu les péchés du monde être transférés sur son corps en une seule fois, et en versant son sang sur la croix, il est devenu le Sauveur qui nous a sauvés éternellement. Nous sommes ceux qui vivons en croyant à cet évangile de vérité dans nos cœurs. Cependant, même aujourd'hui, il y a ceux qui posent cette question. Même aujourd'hui, il y a des gens qui demandent « Comment pouvons-nous manger la chair et le sang de Jésus ? Par quelle sorte de foi les mangeons-nous ? Si nous croyons simplement à la parole que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, la foi d'avoir reçu le lavement du péché n'est-elle vraiment dans nos cœurs ? La vraie réponse à cette question est claire. C'est de croire au fait que Jésus, en recevant le baptême de Jean, a eu les péchés du monde transférés sur lui d'un seul coup et a lavé nos péchés, et de croire en lui comme le Sauveur qui a versé son sang sur la croix pour payer complètement le prix de notre péché. C'est précisément la foi par laquelle on reçoit le lavement du péché, et c'est la manière de manger la chair et le sang de Jésus par la foi. Jésus-Christ est le Sauveur qui, en étant baptisé par Jean, a eu les péchés du monde transférés sur lui d'un seul coup et a lavé nos péchés. Il a été cloué sur la croix, a versé son sang, et est mort pour payer le prix du péché, et par sa résurrection, il est maintenant devenu le vrai salut pour nous. Nous obtenons le salut du péché et du jugement du péché en croyant au fait que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et en croyant au Seigneur qui a réglé le prix du péché sur la croix. Même lorsque nous souffrons parce que nous commettons des péchés dans notre faiblesse en ce monde rude, nous pouvons toujours nous cramponner à l'évangile de la vérité que le Seigneur a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Cet évangile devient la vraie nourriture pour nos âmes, réaffirmant que le ministère de son effusion de sang sur la croix, où Jésus a dit « Tout est accompli », est ce qui fait de lui notre Sauveur qui nous a délivrés du jugement du péché. Par cette foi, nous pouvons gagner en force spirituelle et vivre au jour le jour. Les gens se sont jusqu'à présent efforcés de résoudre les problèmes du péché, qu'ils ne pouvaient résoudre par eux-mêmes, mais, ils n'ont pas pu laver complètement leur péché par des prières de repentance ou des confessionnaux. C'est pourquoi nous devons prier ainsi, « Seigneur, je crois que tu as résolu le problème de mon péché, que je ne pouvais résoudre, d'un seul coup en recevant le baptême de Jean. Je ne pouvais pas résoudre mon péché par des prières de repentance. Maintenant, je t'en prie, permets qu'il soit résolu par la foi en l'évangile de la vérité que le Seigneur a accompli. Vous et moi sommes ceux qui ont reçu le lavement de leurs péchés par la foi qui croient que Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean, qu'il est mort sur la croix, et qu'il est ressuscité pour devenir notre Sauveur. Lorsque nous vivons avec cette foi, nous expérimenterons la victoire du salut que le Seigneur nous a donné. Nous devons toujours rendre grâce au Seigneur de ce que nous vivons comme ceux qui ont reçu le lavement de leurs péchés par la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous devons rendre gloire au Seigneur qui nous aide à vivre par la foi que tous les problèmes de péché qui surgissent dans nos vies ont été résolus par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons vivre en confessant ainsi, « Seigneur, je crois que tu as résolu d'un seul coup tous les problèmes de péché que j'ai commis tout au long de ma vie par le baptême que tu as reçu de Jean. Je ne pouvais pas résoudre mes péchés par des prières de repentance, mais j'ai été sauvé par la foi en la parole de vérité que le Seigneur a lavé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean. S'il te plaît, aide-moi à garder cette foi toute ma vie, et ajoute-moi la foi pour croire plus fermement en l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Nous devons connaître le fait qu'il y a ceux qui s'opposent à notre foi et l'entravent. Même pour ceux qui croient à l'évangile que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en une seule fois par le baptême qu'il a reçu de Jean, et a résolu tous nos péchés en étant crucifié et en versant son sang sur la croix, il y a des moments où de nombreuses difficultés surviennent. Par conséquent, même si nous croyons le fait que Jésus a porté les péchés du monde en recevant le baptême de Jean et a complètement résolu nos péchés en versant son sang sur la croix, lorsqu'il y a des gens qui s'y opposent, nous devons prier le Seigneur afin que nous puissions vaincre par la foi. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme au commencement était de nous faire à sa propre image et de faire de nous les enfants de Dieu. Si Dieu avait créé l'homme comme les enfants de Dieu depuis le début, d'autres êtres créés auraient pu essayer de s'opposer à Dieu. Ainsi, Dieu a créé tous les êtres créés de manière égale, et il a créé l'homme à son image pour qu'il devienne le peuple de Dieu à l'avenir. Et pour que l'homme devienne le peuple de Dieu, la foi pour croire à l'évangile que Jésus a lavé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean était nécessaire. Jésus a dit, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jean chapitre 6, verset 57. Cela signifie que celui qui croit au ministère du salut que Jésus a lavé les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a versé son sang sur la croix vit en mangeant la nourriture spirituelle. Par conséquent, afin que nous soyons sauvés du péché, que nous devenions le peuple de Dieu, que nous traversions ce dernier âge et que nous entrions dans le royaume éternel de Dieu, nous devons avoir dans nos cœurs la foi qui croit à l'évangile que Jésus a lavé les péchés du monde en recevant le baptême de Jean. Nous devons vivre comme des gens de foi qui ont été sauvés de tous les péchés, devenant ceux qui mangent la chair et le sang de Jésus, c'est-à-dire, le ministère de son baptême et de la croix par la foi. Dans Jean chapitre 6, verset 58, Jésus a dit, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus a comparé le ministère du baptême qu'il a reçu de Jean au pain que nous mangeons. Il dit ceci, « Si vous mangez ce pain, vous recevrez l'effacement de vos péchés et serez sauvés du jugement du péché. J'ai reçu le baptême de Jean et j'ai pris les péchés du monde sur mon corps, et pour payer le prix de ce péché, j'ai versé mon sang et je suis mort sur la croix, et je suis ressuscité et suis devenu votre sauveur. » C'est ce que Jésus dit, « Soyez sauvés de vos péchés et vivez par la foi qui croit en mon baptême et en mon sang versé. » Alors vous recevrez dans vos cœurs l'effacement du péché et viendrez à vivre en jouissant de la vie éternelle. Nous désirons ardemment vivre éternellement avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de pécheurs dans le royaume du Seigneur, seuls ceux qui sont devenus justes peuvent entrer dans ce royaume. Jésus est le Sauveur qui, afin de nous emmener dans ce royaume céleste, a porté les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, et a reçu le jugement du péché à notre place sur la croix. Jésus nous a donné sa chair et son sang, et si nous les mangeons par la foi, nous devenons des gens justes sans péché. La vie sur cette terre est parfois pleine d'épreuves et de difficultés. Par conséquent, nous devons toujours nous appuyer sur le Jésus-Christ vivant et vivre par la foi. Finalement, en tant que ceux qui croient en l'effacement du péché que Jésus a donné, nous devons marcher par la foi jusqu'au jour où nous obtiendrons la gloire d'entrer dans le royaume du Seigneur. Quand nous aurons terminé l'œuvre qui nous a été confiée sur cette terre, le Seigneur viendra nous prendre. Aujourd'hui encore, nous vivons par la foi qui croit au Sauveur qui a vu les péchés du monde être transférés sur lui en recevant le baptême de Jean et a été pendu sur la croix pour verser son sang. Notre but, en tant que ceux qui ont reçu l'effacement du péché, est de faire l'œuvre de Dieu et d'entrer ensuite dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus ceux qui iront au royaume du Seigneur en vivant dans la foi qui croit au ministère de Jésus-Christ. Par conséquent, vous aussi, vous devez devenir des gens qui croient dans vos cœurs au vrai ministère du salut, dans lequel Jésus a reçu le baptême de Jean et a versé son sang. La chair et le sang de Jésus sont la foi qui croit au baptême qu'il a reçu de Jean, à sa mort sur la croix et à sa résurrection. Jésus a parlé non seulement de l'évangile de l'effacement du péché, mais aussi de la vie éternelle. Même dans les moments où nous faisons face à des épreuves et des tribulations, si nous vivons en nous accrochant à la parole du Seigneur avec la foi qui croit au baptême de Jésus et au sang de la croix, nous recevrons la force de supporter toutes les difficultés, nos cœurs jouiront de la paix, et nos âmes gagneront une nouvelle force. C'est la raison pour laquelle nous vivons quotidiennement de la nourriture du Seigneur. Tous, quelle chose reconnaissante que nous soyons parvenus à être sauvés en croyant que Jésus a reçu le baptême de Jean et a accompli le ministère de justice sur la croix. Combien est étonnante la grâce que le Seigneur ait reçu le baptême de Jean pour laver nos péchés et éliminer les péchés du monde. Jésus est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et il est notre Sauveur. Le Seigneur est celui qui nous emmènera dans son royaume. Jésus, qui a reçu le baptême de Jean pour laver les péchés du monde, est mort sur la croix, puis est ressuscité, est maintenant devenu notre Sauveur en qui nous croyons. Il est notre berger, le Seigneur de la seconde venue qui reviendra, et notre époux spirituel. Par conséquent, nous sommes ceux qui vivrons sur cette terre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, et quand le temps viendra, entrerons dans le royaume du Seigneur pour vivre ensemble éternellement. Nous rendons grâce pour la grâce que le Seigneur, par le baptême qu'il a reçu de Jean, à laver les péchés du monde une fois pour toutes. Nous sommes ceux qui ont reçu l'effacement du péché par la foi qui croit au baptême de Jésus et au sang de la croix. Lorsque nous aurons accompli tout le travail que le Seigneur nous a confié, nous entrerons dans le royaume du Seigneur. Avant cela, nous devons mener la vie d'un évangéliste, vivant pour prêcher la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Nous désirons accomplir toutes ces choses par la foi et rendre gloire au Seigneur qui nous a sauvés des péchés du monde. Je conclurai le message d'aujourd'hui. Alléluia !